l'Australie. Population, environ 20 millions d'habitants. Capitale, Canberra. Langue officielle, anglais. Régime politique, monarchie constitutionnelle. Monnaie, le dollar australien. Devise nationale, Advance Australia Fair.
J'ajouterais 7 550 000 km², soit 15 fois la France. L'Australie, c'est un grand pays où l'amour doit apprendre à se jouer des distances et à déjouer ce mauvais sort qui fait aussi la beauté et la force de ce pays. Ce matin, nous partons donc à la découverte de l'Australie dans le cœur d'Emmanuel Crane. Bonjour.
Bonjour Olivia.
Vous êtes correspondante à Paris de la radio et de la télévision publique australienne, SBS. Vous êtes citoyenne australienne, française et américaine. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de dire à un Australien que vous l'aimez ?
Absolument.
Comment a-t-il réagi ? Parce qu'il est parti en courant, parce qu'il paraît que là-bas il y a une grande pudeur des sentiments.
Oui, c'est vrai, il y a une grande pudeur. Maintenant, avant de dire qu'on aime un Australien, il y a du temps qui passe. Ça ne vient pas d'un coup.
Alors qu'est-ce qu'on dit en attendant ?
Ça prend du temps, il y a plusieurs rencontres et les femmes aussi ont du mal à dévoiler leurs sentiments, donc c'est pas d'emblée.
On ne dit rien, on montre, on évoque tout en pudeur. L'Australie, on le disait, c'est grand. Alors pour mieux occuper le terrain, les couples se divisent. Quand un travail se présente, c'est souvent à des centaines de kilomètres du foyer, comme dans la ville industrielle de Karata, où cadres et ouvriers enchaînent les journées et des semaines entières sans rentrer, sans voir leur famille. Isolés, dispersés, les pubs, c'est un peu leur deuxième maison.
We walk around in our lingerie.
En fait, on se promène en lingerie, on fait la conversation aux gars et on leur sert leur bière. Et nous donnez-vous quoi ?
Témoin de cette solitude trempée dans le houblon, Caroline Laffa nous a rapporté d'Australie ses quelques confidences. Lovely Australie. Il est 10h12 à Paris. Au même moment, à Karata, ville côtière sur l'océan Indien, une nouvelle journée de travail dans les pattes s'achève pour ces hommes qui prennent sûrement la route des pubs à cette heure-ci en Australie. Solder sa journée dans les bulles de bière au pub avec des copains, c'est une tradition australienne, Emmanuel Crane.
C'est une tradition australienne, pas seulement dans le bush, mais également dans les villes.
Qu'est-ce que c'est le bush ?
Le bush, la brousse, c'est tout ce qui n'est pas les grandes villes, donc ni Sydney, ni Melbourne, Adélaïde, Perth et Hobart, et Brisbane bien sûr.
Et alors, vous, votre Australie à vous, laquelle est-ce ?
Melbourne.
Melbourne ? Vous avez bougé un peu quand vous y étiez ou vous êtes vraiment restée à Melbourne ?
Basée à Melbourne, mais j'ai parcouru toute l'Australie tant à l'ouest, Karatha par exemple, j'y ai été aussi, et toute la côte est et le désert.
Et racontez-nous ces contrastes qui ont pu vous marquer justement entre l'Australie des villes et celle du bush.
Ah, comme vous l'avez dit, c'est un grand pays. On met des heures et des heures à parcourir. Il y a certains moments, il n'y a même plus de route. On est obligé de passer sur la plage. Je parle de l'Australie occidentale, là. Et il y a vraiment deux mentalités distinctes. L'Australien du bush et pas celui de la ville. Il est beaucoup plus dur, en général. Ça attire des mineurs et
des mineurs des mines.
Des mineurs des mines, c'est ça, voilà. Et c'est des métiers qui sont durs. Alors que dans la ville, on est déjà beaucoup plus protégé. Et le centre de l'Australie, c'est le désert. Donc quand on voit comment la population s'est installée en Australie, elle a toujours tourné le dos au désert. Regardez vers la mer et au dos au désert. Donc ceux qui sont restés dans le bush, c'est ceux qui sont vraiment durs à cuire.
Des durs à cuire, des caractères bien trempés pour affronter à la fois ce désert, ce climat aussi très chaud. On va évoquer ensemble les codes amoureux de l'Australie avec ce paradoxe déjà qu'on évoquait tout à l'heure. On imagine donc un pays où il fait chaud, on se dit que ça doit être débordant de sentiments, peut-être un peu comme dans le sud de l'Europe, mais non, en fait, en Australie, il y a aussi cette influence anglo-saxonne et il y a ce qu'on pourrait appeler une pudeur des sentiments, une vraie réserve à montrer, à démontrer ces sentiments.
Alors, c'est une colonie britannique, peuplée en plus par les bagnards et par des colons qui cherchaient vraiment autre chose. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes qui sont arrivés au départ. Donc ce côté latin, non, n'existe pas. On l'a retrouvé un peu avec l'immigration des Grecs et des Italiens qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a changé un peu les codes, mais l'essentiel reste essentiellement anglo-saxon. Et en effet, on est toujours séparés. Les écoles, c'est toujours les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et on apprend à se parler très tard.
Il n'y a pas de mixité. Peu de mixité.
Très peu, très peu. Les hommes aiment bien être ensemble, les femmes aiment bien être ensemble, peut-être par défaut.
Mais alors, ça se traduit comment, cette pudeur, justement, cette réticence aux grandes démonstrations d'affection?
On ne peut pas perdre la face. Et un homme australien qui montre trop de sentiments, ce n'est pas très bien vu. Alors, on ne montre pas non plus de gestes physiques. On se tient rarement par la main, en tout cas en public. Dans l'intimité, c'est autre chose. Mais devant les autres, oui, on est séparés et on communique plus facilement autour d'un bon verre dans un pub.
On ne s'embrasse pas en public, mais en privé.
Pas quand même.
J'imagine que oui, il y a de la passion.
Les Australiens peuvent être très passionnés. Ce sont des amants très passionnels. Et quelque part, c'est dans l'intimité qu'ils peuvent vraiment se révéler plutôt qu'en public.
Donc qu'est-ce qu'on se dit, peuple de raison ou peuple de passion?
Oula, passion peut-être dans l'intimité et plutôt de raison face aux autres.
Et l'amour courtois, le romantisme, est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui est assez étranger aux hommes australiens?
Ouais, je crois qu'il faut laisser tomber ça.
Oui, non, on n'est pas les formes.
À part encore une fois, quand on vient d'un milieu plutôt latin, on le ressent un peu plus, mais sinon, dans ceux qui sont d'origine anglo-saxonne, non, pas vraiment de côté romantique.
Et alors, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux devant ce manque de romantisme? Si vous voulez faire une déclaration d'amour ou montrer à un homme qu'il vous plaît, vous allez lui montrer ça comment? L'exprimer comment?
Alors,
très directement, très franchement.
Oui, et les femmes ont pris beaucoup d'assurance. Il y a eu un mouvement féministe très fort depuis les années 70. Et elles assument beaucoup plus que les hommes aujourd'hui. Les hommes sont devenus un peu trouillards et ils ont peur de se prendre une claque. Donc les femmes prennent beaucoup plus d'initiative qu'auparavant. Et on peut être direct, on peut dire les choses directement, que quelqu'un nous plaît. Et...
on ne tombe pas autour du pot.
No beating around the bush. Je ne sais pas si on peut le dire en anglais. Qui veut dire, justement, exactement, c'est une citation complètement australienne, qui veut dire on ne tourne pas en effet autour du pot, on va droit au but.
Imaginez un instant. Vous vivez dans un état doté de ressources naturelles très diverses, qui assurent votre prospérité et celle des générations futures. Imaginez, vous vivez dans une ville connue dans le monde entier pour être le centre de l'innovation, du savoir et de l'apprentissage. Une ville où scientifiques et professionnels de toutes disciplines travaillent ensemble à inventer des méthodes de travail plus sûres, plus intelligentes et plus écologiques. Imaginez l'Australie occidentale, un état qui regorge de matières premières, et Perth, sa capitale tournée vers le futur. La chaleur de ses habitants et sa formidable qualité de vie attirent les meilleurs. Imaginez Perth, une ville internationalement reconnue pour sa capacité d'innovation, tournée vers le futur.
Imaginez aussi, un peu plus haut, une ville industrielle, là où le désert rejoint l'océan Indien. On y produit du gaz naturel liquéfié, des pesticides, du ciment. On y transporte du minerai de fer. Imaginez encore des ouvriers en bleu, orange, jaune, au volant de leur 4x4 ou accoudés au bar, une chope de bière à la main. Imaginez enfin des hommes, esselés, qui regardent dans le décolleté ou sur le décolleté des serveuses en lingerie fine. Si vous parvenez à imaginer tout ça, alors vous aurez bien en tête le décor de la scène qui va suivre. Comme l'indique ce spot promotionnel, nous sommes bien dans l'état d'Australie occidentale, à Karata. Le reportage est signé Carolina
Fark.
Je m'appelle Alix, j'ai 23 ans, je suis serveuse barmaid en lingerie, et ici on nous appelle les skimpies.
Ça veut dire quoi?
Well, we walk around in our lingerie.
En fait, on se promène en lingerie, on fait la conversation aux gars et on leur sert leur bière. Et ils nous donnent des pourboires? Moi, ça fait 2 ans que je travaille comme skimpy.
It was a little bit nerve-wracking.
Au début, j'étais nerveuse.
sort of second nature.
C'est vite devenu une seconde nature.
I have so much money.
Il y a tellement d'argent en faisant ça. Je pense que nous ne sommes pas les dindes de la farce. Ce sont les hommes qui paient pour nous voir en lingerie qui sont des cibles.
Je travaille dans le BTP. On est la compagnie la plus importante dans le nord-ouest de l'Australie. Je suis là pour 7 ou 8 semaines. Il faut bien aller là où est l'argent. Alors je m'adapte.
Vous êtes toujours loin de votre famille.
Ma femme est à 2000 km d'ici et elle vit à Perth. Mais ça n'a pas d'importance, vous savez, je suis ici pour boire un coup et mater. J'ai pas envie de plus que ça, j'ai pas d'autres intentions. Je n'ai de désir que pour ma femme, pas pour ses serveuses. Moi, ce que je vois derrière le bar, c'est pas mal non plus.
Qu'est-ce que vous voyez derrière le bar?
Oh, comment dire, des femmes super sexy.
Bon, on a assez là, vivement qu'on rentre à la maison. Les copains d'abord, c'est un peu ce qu'évoque cette première partie du reportage de Caroline Lafargue. On a le sentiment d'un monde réservé exclusivement aux hommes. Alors oui, bien sûr, il y a les skimpies, les serveuses, mais il y a cet entre-soi qui a l'air aussi assez spécifique ou particulier à l'Australie. Hein.
C'est ce qu'on appelle le mateship. Hein, donc on reste entre mates, mais même les hommes appellent les femmes « mate ». Donc ça perd son côté féminin, masculin. Mais c'est vrai que les hommes aiment bien se retrouver ensemble. Et là, on retourne un peu dans le monde pionnier de l'Australie. Et le bush le représente vraiment. Ceux qui sont venus au 19e siècle, c'était également pour travailler dans les mines ou travailler dans l'agriculture. Et ils aiment se retrouver ensemble, c'est certain.
Mais justement, si vous évoquez cet esprit pionnier qui rappelle ou fait appel à la période coloniale, hein, qui a débuté à la fin du 18e,
oui.
Les femmes étaient déjà se faisaient assez rares hein, à cette période-là en Australie.
C'était pas très attirant de venir en Australie à l'époque. Hein. C'était un désert, c'était loin de tout. On savait quand on partait en Australie, on n'en reviendrait pas. Et ça attirait peu de monde.
Et les quelques femmes qui arrivaient là-bas,
elles avaient un travail d'homme à supporter et en plus, elles avaient beaucoup d'hommes après elles.
Et les hommes avaient une grande considération pour la gente féminine à ce moment-là ou...
Non, mais il faut dire quand même qu'il y a une solidarité entre l'homme et la femme dans le bush parce que la vie est tellement dure hein, qu'on a besoin de l'un et de l'autre. Non, la femme n'était pas considérée... Ses atouts féminins n'étaient pas considérés l'essentiel, si vous voulez. Et encore aujourd'hui, la femme du Premier ministre, Madame Rudd, qui est une femme qui n'est pas très féminine, le revendique. Hein, parce que c'est une femme qui est une entrepreneure et qui est capable de mener à bien des projets. Et c'est souvent l'image qu'on a d'une femme australienne qui réussit.
Et cet état d'esprit un peu corps de garde, hein, cette tradition du mateship que vous évoquiez, on l'a retrouvé plus tard avec les chercheurs d'or. Donc petit à petit, ça s'est quand même inscrit, ça s'explique hein, dans la culture australienne et notamment entre les hommes et les femmes dans les relations. On retrouve peut-être cette tendance des hommes à préférer être entre eux au pub, à pouvoir parler, discuter, boire, payer sa tournée jusqu'à la tombée de la nuit. On apprécie cette compagnie des hommes et on s'en montre pas moins viril. La virilité, c'est un des atouts ou en tout cas une des caractéristiques que revendique l'homme australien.
Absolument. Et on le retrouve aussi dans le surf. Si vous faites du surf, vous vous retrouvez entre hommes en général, bien que beaucoup de femmes aient commencé à débuter ce sport. Mais on n'y va pas pour draguer. La plage n'est pas pour draguer. C'est vraiment pour être entre hommes, faire son petit business sur sa planche de surf. Et vous n'êtes pas la bienvenue. Si vous voulez vous joindre aux hommes, il faut être comme un homme.
Vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire rembarrer, entre guillemets, d'une plage ou d'un pub?
Des deux.
Ben voilà.
À la plage, absolument. J'étais très déçue parce que je pensais qu'on allait me montrer comment surfer. En fait, on m'a demandé de dégager, que je prenais la place et que je servais à rien. Et puis, dans le pub, dans une petite ville minière qui s'appelle Kalgoorlie, qui est dans l'Australie occidentale, donc comme votre reportage, mais plus au sud, le pub s'est complètement arrêté de fonctionner, j'allais dire. Tout le monde s'est arrêté de parler au moment où je suis rentrée. J'ai bien compris que ma présence n'était pas la bienvenue.
On imagine assez bien la scène, hein, ce moment où le temps s'arrête, la musique s'arrête, tous les regards se tournent vers vous. Et puis après, tout a dû reprendre tranquillement son cours.
Hein. Voilà, et moi, très mal à l'aise, finalement, j'ai plié bagage.
Vous êtes repartie. On a quand même un peu envie de dire, en vous entendant, et la tendresse, bordel. Non ? Elle est où, la tendresse, dans tout ça ?
Dans l'intimité.
Dans l'intimité ?
Dans l'intimité.
Un peu aussi dans les chansons d'amour, quand ça, même.
Oui.
Hein. Ça fait du bien.
Oui. Mais vous savez, dans beaucoup de pop, on entend de belles chansons d'amour. Il y a beaucoup de bands, hein, de groupes de musique qui se donnent et qui sont le moment un peu romantique. On parlait de romantisme avant, qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais on le trouve quand même.
Voilà, un beau slow, hein, une chanson douce, comme on dit, qui fait fondre les cœurs australiens. Mais quand je pense au romantisme à l'australienne, ça m'évoque autre chose. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais on peut voir dans un livre best-seller et dans un film, enfin plutôt une série, qu'en Australie, on sait aussi aller chercher l'amour, même là où il ne devrait pas y en avoir. Et pour le croire, il suffit de relire le best-seller de Colleen McCullough, l'auteur australienne des Oiseaux se cache pour mourir, ou l'attirance contre nature impossible du père Ralph pour la belle, comment elle s'appelait, Maggie, hein?
Maggie.
Maggie, qui est une fille d'une famille d'éleveurs
dans le
Queensland. Ouais. Et ça, c'est un roman qui a beaucoup marché, un roman à succès, hein, en Australie.
Absolument, ça reflète vraiment bien les valeurs australiennes. Une ferme énorme, difficilement gérable, et puis à la tête, une femme, encore une fois.
Et dans le bush, justement, que vous évoquiez, si on s'y retrouve, la femme a quel rôle ?
Elle peut avoir le rôle d'un homme, comme on le voit justement dans Les oiseaux se cachent pour mourir, hein, où elle gère tout, cette femme-là. Et puis sinon, quand on est en couple, le rôle de la femme, il a son importance et elle fait souvent un métier d'homme aussi.
Et on a l'impression que justement toute la relation homme-femme se construit autour ou à partir du travail, hein, en Australie, beaucoup, dans cette répartition des rôles qu'il peut y avoir.
Oui, mais aussi beaucoup dans le sport. Le sport, c'est quand même l'essentiel de la vie en dehors du travail et c'est là où les gens se rencontrent. On se rencontre à la piscine, on se rencontre à la plage, mais pas pour faire... pas comme en France pour se faire bronzer et rencontrer les gens comme ça, mais vraiment dans une activité.
Et dans cette ambiance assez... viril aussi, est-ce qu'il y a eu un moment, un mouvement, une tentative d'émancipation des femmes ? Quelle place ont-elles essayé d'obtenir par rapport à cet esprit aussi un peu corps de garde, comme on l'évoquait ?
Les femmes se sont un peu rebellées parce qu'elles se sont senties un peu mises à l'écart par les hommes. Donc elles ont commencé à traîner ensemble et sortir ensemble et c'est pour ça que vous voyez souvent dans les restaurants des femmes, des tablées entières de femmes qui sortent ensemble et s'amusent et se comportent quelquefois pour les latins un peu trop comme des hommes. Donc elles sont un peu directes, un peu fortes et souvent c'est une perspective française un peu mal vue.
Un effet de mimétisme un peu.
Oui un peu.
Elles se comportent comme des hommes pour être acceptées par les hommes.
On peut dire ça comme ça.
Ouais. Et elles travaillent autant que les hommes aujourd'hui, les femmes australiennes ?
Elles travaillent autant que
avec
les...
Avec des métiers aussi difficiles ou...
Oui, on les retrouve un peu partout, mais c'est elles qui ont quand même la majorité du temps partiel. Donc elles s'occupent beaucoup aussi des enfants, mais elles travaillent en général, oui, à peu près la moitié. Elles représentent à peu près la moitié des travailleurs australiens.
On se marie assez jeune aussi en Australie. Hein.
Et les deux, on se marie très jeune. Le mariage est très ritualisé, on aime beaucoup ça, c'est vraiment une fête. Ou alors, on se marie très tard et il y a moins la pression, j'allais dire, qu'en France, pour être mariée, il y a moins cette notion de vieille fille dont on peut parler en France.
Vous trouvez qu'on a cette pression en France ?
Absolument.
Plus qu'en Australie ?
Absolument.
Ah, oui. Et en même temps, l'union libre, vous le disiez, existe, hein, le concubinage aussi.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Mais c'est encore assez récent, hein, c'est depuis les années quoi, 70 ?
Oui, mais à savoir qu'aujourd'hui, le concubinage est reconnu à la même valeur que le mariage.
Par qui ?
Par l'État.
D'accord. Est-ce qu'il donne quand même un poids assez important à la famille ou pas ?
Oui, la famille a son importance, mais ça reste la famille très parents-enfants. Les grands-parents, les beaux-parents sont à l'écart. Donc la vie de couple en Australie, elle est vraiment entre la femme et l'homme. Et les enfants qu'ils peuvent avoir. Mais le reste de la famille ne se mêle pas trop. Alors, ça l'écart.
Oui, il y a une des particularités hein, quand même. En Australie, on a commencé à l'évoquer avec le reportage, la première partie du reportage de Caroline, c'est cette solitude. C'est-à-dire qu'on peut être marié, vivre en couple et en même temps vivre séparé. On a laissé nos travailleurs, certes en bonne compagnie, on va partir les retrouver. Il trempe son ennui dans l'alcool. Le désarroi de Scott est sans doute assez représentatif du malaise des hommes de caractère.
Je suis arrivé ici à Karatin en 2000. J'ai venu avec ma femme et mes trois enfants. On est venu ici pour avoir une vie meilleure, gagner plus d'argent. Et en fin de compte, ça m'a coûté mon mariage, c'est clair. C'est vrai qu'au début, c'était miraculeux. En arrivant ici, je suis passé d'un salaire de 40 000 $ à 100 000 $ annuels. Je suis machiniste dans l'industrie du gaz. Ici, la majorité d'entre nous vit au rythme de 4 semaines de boulot ou 1 semaine de repos. À l'époque, je n'étais pas un fly-out worker. Mais pour ma famille, c'était quasiment la même chose. Je quittais la maison tous les matins à 4h30. Je rentrais le soir à 18h. Et je n'avais que 2 dimanches par mois à passer avec ma famille. Quand je rentrais le soir à la maison, elle partait pour son service de nuit. Alors la communication se limitait à bonjour, au revoir. Elle s'était occupée de nos trois enfants toute la journée. Elle avait envie de partir au boulot pour souffler un peu. Et moi je rentrais, je n'avais qu'une envie, voir mes enfants et me reposer. Elle n'était pas là, donc on a appris à vivre l'un sans l'autre. Mon monde, c'était le boulot et les enfants.
Comment sont les femmes ici à Karatin? Quelles femmes pouvez-vous rencontrer?
C'est difficile de rencontrer une femme ici et de retrouver le bonheur. C'est vrai qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivé dans ce boulot, on comptait les femmes sur les doigts d'une main. Mais aujourd'hui, ça a changé. Je dirais qu'elles représentent un quart des effectifs. Par exemple, mon chef est une chef. Elle conduit des grues immenses. Et ces femmes-là viennent pour travailler, pas pour trouver l'amour. Puis c'est comme pour les hommes, elles viennent ici pour leurs 4 semaines de travail et rentrent en ville pour prendre du bon temps pendant une semaine. Elles n'ont pas besoin d'hommes ici.
Et qu'est-ce que vous faites pendant vos week-ends? Vous sortez jamais? Vous n'allez jamais dans un nightclub? Ça n'existe pas ici?
Je suis allé dans quelques boîtes. Mais vous savez, il doit y avoir 100 femmes pour 600 hommes qui leur tournent autour. Du coup, elles ne sont pas faciles à approcher. Ce n'est pas comme chez moi, dans le Queensland, où je peux me permettre d'aborder une tablée de filles et d'entamer la conversation. C'est relax là-bas, il y a plein de gens de passage, des touristes. Mais ici, on voit les bières entre hommes, on n'approche pas les femmes, parce que si elles sont maquées, ça crée des bagarres.
Et si Scott se sent seul, il est loin d'être un cas isolé. La moitié des compagnies minières et pétrolières de l'État d'Australie occidentale a recours à cette main-d'œuvre temporaire. Ces travailleurs représentent environ la moitié des effectifs de ces entreprises. Robin Chappell a travaillé comme ingénieur, lui, dans les mines de fer. Il connaît les effets assez dévastateurs qu'on pouvait entendre en filigrane dans le témoignage de Scott. Effets dévastateurs sur le couple, notamment du fly-in, fly-out de ce système. En charge de la région d'Australie occidentale, le député vert combat désormais ce qu'il convient bien d'appeler effectivement un système.
We had a major disputation at BHP in 1988.
En 1988, nous avons eu un conflit très dur avec le géant minier BHP. Les ouvriers ont fait grève, comme d'habitude, mais pas seulement. Pour la première fois, les cadres ont également débrayé. Parce que la moitié des cadres étaient mariés des ouvrières. Par exemple, monsieur était cadre et madame électricienne, ou vice-versa. Bref, BHP était une grande famille. Du coup, la direction a purement et simplement rapatrié le management à des milliers de kilomètres à Perth, laissant bien sûr les ouvriers sur place pour les séparer, casser cette solidarité et ne plus jamais avoir à gérer une grève d'une telle ampleur. Et les géants comme Rio Tinto, Woodside et tous les autres ont fait la même chose. Mais les compagnies minières sont allées encore plus loin. Parce que les ouvriers restés sur place, eux, étaient extrêmement solidaires. C'est là que les compagnies ont inventé le système fly in, fly out. Les ouvriers travaillent en rotation, si bien que les gars qui arrivent ne savent rien des problèmes rencontrés par l'équipe qui les a précédés. Avantage de l'opération, en séparant ainsi les ouvriers, la direction cassait la force des mouvements syndicaux. En plus, ça permettait aux compagnies de faire des économies. Plus besoin de construire des pavillons pour leurs employés, ce qui coûtait très cher. Aujourd'hui, avec le recul, certaines entreprises revoient leurs copies. Elles commencent à comprendre qu'elles pourraient gagner en productivité si leur manœuvre était plus stable. Parce qu'il faut bien comprendre que le fly-in, fly-out est une catastrophe pour l'Australie occidentale. C'est devenu une culture qui a un coût social élevé. Le taux de divorce est extrêmement élevé. Plus de la moitié des couples explosent après le retour du conjoint.
Alors, Robin Chappell parle de catastrophe, de la division, séparation des couples qui amène à de nombreux divorces. C'est un problème en Australie, cette division des couples par le travail, finalement.
Oui, c'est un vrai problème. Et puis, l'Australie est tellement dépendante de ses ressources minières que ça concerne énormément de monde. Mais ce n'est pas un phénomène récent, hein. Ça date depuis déjà longtemps. Et il faut imaginer, c'est vrai que 4 semaines, 5 semaines, ça fait long.
Mais on pourra y remédier d'une manière ou d'une autre, ou c'est aussi la flexibilité, pour reprendre un terme en vogue, notamment dans le jargon libéral, qui cette flexibilité du travail, on n'est pas prêt à la remettre en cause en Australie.
Non, puis elle convient un peu à tout le monde aussi, c'est de l'argent facile aussi, hein. On gagne beaucoup plus, comme il le disait dans votre reportage, en partant 4 semaines qu'en restant à Perth à travailler 5 jours sur 7, tout le mois entier, donc chacun y trouve son compte, mais c'est vrai que pour le coup, pour celui qui reste, c'est difficile, et puis ça attire par contre, il y aurait la même équivalence d'hommes et de femmes qui viendraient et qui sortiraient, ça irait. Mais comme il le disait, il y a très peu de femmes.
Certaines y trouvent quelques avantages. On va l'entendre tout à l'heure avec le témoignage de Margot. Emmanuelle Crane, correspondante de la radio et télévision publique australienne SBS, est notre invitée ce matin, il est 10h40. Voilà.
C'est dur l'amour à distance.
Exactement. Et on en parle jusqu'à 11h, la tyrannie de la distance.
Alors ça va?
On n'avait pas dit que c'était carnaval.
J'ai resté ici 2 ou 3 jours. On pourra se taper une bière, hein?
Alors, au revoir. Si c'est pas la cage au revoir.
Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter.
Oh, I'm always alright when I'm with you, Dundee.
Olivier, j'espère.
Ceux qui ont vu le film auront peut-être connu cet extrait de Priscilla, folle du désert, film australien de Stephen Elliott, réalisé il y a 15 ans, déjà, qui retrace la traversée du pays en bus de 2 drag queens et d'une transsexuelle. Vous l'avez vu ce film,
Emmanuel? Absolument, c'est un grand classique.
Qui a marché en Australie?
Absolument, ça a été la naissance en fait du film australien. C'est à ce moment-là que le film australien s'est vraiment démarqué. Dans le monde.
À l'étranger,
oui.
Mais est-ce que dans le pays, ça a ouvert un débat sur la différence, notamment
Oui,
sur la différence. Par rapport à ce profil hein, de l'homme aussi qu'on vient de décrire, de l'homme viril, qui ne supporterait pas l'idée d'avoir l'air efféminé.
Oui, et puis on touchait à l'homosexualité, c'était tabou en Australie pendant très longtemps. Hein. C'est encore interdit dans l'état de Tasmanie, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, c'était vraiment confronté deux mondes, non seulement la ville et la brousse, mais en plus les drag queens, là, ça, ils ont poussé très loin. Donc ça fait rigoler évidemment tout le monde s'y est retrouvé, parce qu'on voit vraiment ce décalage entre l'Australie de la ville et l'Australie du bush.
Vous évoquiez le tabou de l'homosexualité, il y a d'autres tabous très forts en la matière en Australie.
On parle, oui, la question aborigène, hein, dont on parle quand même plus aujourd'hui, suite surtout à la réconciliation qui a eu lieu entre les aborigènes et le reste de l'Australie. Mais ça reste aujourd'hui, bien sûr, encore un sujet tabou.
Dans cette réconciliation, il y a l'idée de se comprendre, de se connaître, et ce film, Samson et Delilah, je ne sais pas si je le prononce bien, de Warwick Thornton, a aidé à faire connaître une partie de la communauté aborigène d'Australie. C'est l'histoire d'une rencontre amoureuse entre deux adolescents qui décident de sortir un peu de leur communauté, d'aller voir ce qui se passe en dehors, qui découvrent l'injustice, la dureté de la vie, Dans un moment comme ça, où ils sont démunis de tout, en tout cas de tout, tout ce qui fait de biens matériels, on voit que l'amour reste, même quand il n'y a plus rien, en tout cas, entre ces deux adolescents. Vous parliez de cette connaissance qui commence à y avoir de la culture aborigène. Est-ce qu'en matière d'amour, elle est très différente du reste du pays? Est-ce qu'il y a des rites, des codes particulièrement différents à comprendre?
Alors, si l'Australie est un pays multiculturel, la communauté aborigène est vraiment à part, dans tous les sens du terme, donc dans les relations amoureuses, bien sûr. Il y a des codes qui sont complètement différents, ça fonctionne comme une tribu, comme un clan, et justement, qui a vécu complètement en parallèle du reste de l'Australie, d'où, de par sa différence. Donc, mais des mélanges aujourd'hui métissés, il y en a toujours eu, mais qui sont peut-être mieux abordés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Vous voyez également dans le film Australia qui est sorti il n'y a pas si longtemps, avec Nicole Kidman et Hugh Jackman, cette relation aussi entre aborigènes et non-aborigènes qui est là depuis les pionniers. Donc elle existe depuis toujours, mais elle va quand même en s'améliorant et en ayant moins de disparités, j'allais dire, et de méconnaissances entre ces deux mondes.
Alors, une prochaine fois, peut-être des témoignages de la communauté aborigène ou des communautés pour...
Il y en a
plusieurs. Pour comprendre ces différences, revenons à notre question de l'amour à distance. On a entendu la parole des serveuses, des skimpies, la parole des hommes, et on laisse aussi un peu la parole aux femmes de ces fameux flying, fly-out workers, de ces travailleurs mobiles. Comment vivent-elles cette situation? Sur les hauteurs de Perth, l'horizon reste, semble-t-il, assez dégagé pour Margot. Elle voit le bon côté des choses. Elle a un point de vue assez minoritaire, celui d'une épouse heureuse, mais on peut l'écouter comme étant un exemple de femme qui a su s'adapter à cette situation. Témoignage complice au micro de Caroline Lafargue.
Je m'appelle Margot McAdam, j'ai 58 ans.
Vivons sur les hauteurs de Perth. J'ai 17 ans quand j'ai rencontré Austin et nous nous sommes mariés en 1971.
Il est où votre mari, Austin?
At the moment, he is working away. He is.
Et là, en ce moment, il travaille loin d'ici, à Maron, près de Kalgoorlie, à environ 600 km à l'est de Perth.
He's a plumber.
Il est plombier dans une mine de nickel. Il a une semaine de travail là-bas, une semaine de repos à la maison. Donc là, il est parti hier, vendredi, et je le reverrai jeudi prochain.
Ça fait combien de temps que votre mari travaille à des centaines de kilomètres de votre maison?
3 years now. It was great.
Ça fait 3 ans. Mais je trouve ça super, cette liberté. Je peux me consacrer à mes activités, la mosaïque, la lecture, faire du patchwork. J'ai le temps de voir mes amis. Et quand il est à la maison, on peut sortir déjeuner au resto, jardiner ensemble. Et si on veut faire une petite sieste, un petit câlin dans l'après-midi, on peut se le permettre désormais. C'est très excitant quand il rentre à la maison. On rattrape le temps perdu, son absence a mis du piment dans notre vie sexuelle. Pourquoi c'est possible même à la fin de la cinquantaine?
Est-ce que vous pouvez me montrer une photo de votre mari, Austin, puisqu'il est absent, ce mari?
Oh, ok, yeah, I can show you, yeah.
Now, where's that photo of Austin? This is a good photo of Austin. Sorry. Now, this is Here is a photo.
C'est notre photo de mariage. Il fait très années 70 là-dessus.
So when
avec ses ronds plaquettes.
C'est un bel homme, hein?
Thank you. I think
Merci.
He is.
Moi aussi, oh je trouve God. Qu'il est très beau. Oh là là, regardez-moi ça. Il s'était fait faire un super brushing pour notre mariage. Austin a un sens de l'humour typiquement australien. Et il me fait des blagues du genre « Hé Margot, attrape !» Je me retourne et il me lance des œufs. Vous imaginez le tableau.
Est-ce que votre mari est plus attentionné, plus galant, plus présent quand il rentre à la maison maintenant?
When he's on the mine, he plays all these jokes.
Comme je le disais, c'est un bout en train. À la mine, entre collègues, ils font beaucoup de blagues. Le problème, c'est que quand il rentrait à la maison, il me traitait plus comme une camarade de travail que comme sa femme.
Il était un peu cavalier, il oubliait de dire des merci et s'il te plaît. On s'est d'abord un peu disputé à ce sujet, puis j'ai lâché prise. Du coup, il est plus attentionné. Et tout va pour le mieux aujourd'hui.
We're fine. It's lovely. Yeah.
Voilà, c'est aussi un peu le risque, Emmanuel Crane, de ce type de situation, le travers dans lequel on peut facilement tomber. C'est aussi une certaine camaraderie au sein du couple.
Et oui, la distance n'aidant pas, mais si je peux réagir un peu à votre reportage, moi je trouve ça super, ce côté positif de la femme australienne, indépendante. Et on retrouve vraiment cette caractéristique-là, donc d'arriver à se débrouiller toute seule, et la femme australienne en est très fière. Hein.
L'indépendance.
Oui, elle n'a pas besoin de son mari, elle ne se plaint pas de ne pas pouvoir se débrouiller sans son mari quand même. Donc ça, c'est pas mal.
Mais elle s'en arrange aussi quand même.
Exactement, exactement. Donc elle en fait une force. Mais c'est vrai que de tomber dans cette camaraderie, c'est un peu à traîner tous les jours, tous les soirs avec des copains. C'est vrai qu'on prend vite des habitudes.
L'immigration vers l'Australie a longtemps été assez exclusivement britannique, mais petit à petit, l'Australie a ouvert ses portes à d'autres origines, d'autres migrants, d'autres communautés se sont constituées sur le sol australien. Est-ce que ça a beaucoup modifié cette culture amoureuse? Est-ce que là encore, on peut sentir les influences étrangères sur cette culture amoureuse australienne qu'on a décrit jusqu'ici?
Alors quand vous avez des Italiens et des Grecs qui arrivent, oui, ça change beaucoup de choses.
Ça décrispe un peu, oui.
Et quand ils sont arrivés dans les années à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrivés aussi avec les cafés. Donc à ce moment-là, on pouvait rencontrer des hommes et des femmes ailleurs que dans le pub. Donc ça a ouvert bien sûr toute une différente façon de se connaître et de se draguer aussi.
Et l'Australie, les autorités australiennes ont laissé cette porte ouverte à ce mélange des cultures, ou est-ce qu'elles ont essayé de freiner ça pour conserver la culture d'origine?
Alors il y a eu une politique d'immigration blanche jusque dans les années 60 hein, qui était en place jusqu'à justement ils ont créé la chaîne SBS pour laquelle je travaille, qui est la chaîne multiculturelle pour promouvoir justement ce côté multiculturel de l'Australie. Mais finalement c'est assez récent, ça remonte à 40 ans.
Emmanuel Crane, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. On a pu vérifier ensemble le proverbe « loin des yeux, loin du cœur » à travers ces témoignages des Flying Fly-Out Workers, propos recueillis par notre reporter Caroline Lafargue à Perth et à Karatha.